Le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier. Du 15 au 18 mars 2022, au Palais des Festivals à Cannes. En partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonize. Sur Radio Immo.
Oui, bonjour à tous. Je pensais qu'on avait un jingle pour la fondation, non ? C'est sur le visuel, bien évidemment. On avait dit tout à l'heure, puisqu'on a eu le patron du MIPIM qui était avec nous tout à l'heure, n'est-ce pas Stéphane ? Stéphane Moquet qui est avec nous. Ça va toujours Stéphane ?
Je suis en pleine forme et puis voilà. Je suis très content aujourd'hui qu'on parle de solidarité.
Voilà, solidarité, puisque Ronan Vaspart nous a fait part, bien évidemment, de la large place qu'il a mis pour soutenir la fondation Elojou dans son action pour les réfugiés ukrainiens. Pour en parler, on avait décidé, pendant cette première journée du MIPIM, de faire un focus spécifique sur cette action qui a été menée par la Fondation Elojou avec Isabelle Larochette, la présidente de la Fondation. Comment ça va, Isabelle ?
Mais écoute, ça va, je suis en pleine forme. Maintenant, on a une mission qui est une nouvelle mission, hein, qu'on prend à bras-le-corps. On a réuni le comité exécutif et puis ça a été pris très très vite. Voilà, moi c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que j'ai un peu de la famille là-bas et que voilà, c'est d'autant plus fort et d'autant plus une motivation supplémentaire. Et je pense qu'on est tous conscients de ce qui nous arrive aux portes de l'Europe là et qu'il faut aider ces personnes-là. Ça peut être nous demain et on se doit de réagir. Voilà, c'est ce qu'on fait.
Merci Isabelle, avec nous toujours et sur le plateau, physiquement, il est avec nous. C'est Jean-Luc Brulard. Comment ça va Jean-Luc ?
Bonjour Sylvain, merci de ton accueil.
Voilà, Jean-Luc, membre historique de la Fondation Elojou, cofondateur. Merci en tout cas. Alors, il devait être avec nous sur le plateau, mais il n'a pas eu la possibilité de se déplacer. Il est avec nous en distance, en duplex, Franck Tapiro. Est-ce qu'il est avec nous, Franck ? Ça va, Franck ?
Bonjour, Franck.
Merci. On va augmenter un petit peu le son du retour de Franck pour qu'on puisse bien l'écouter. Et avec Franck, donc on te fera réagir, bien évidemment, sur cette initiative dans un contexte géopolitique un peu particulier, on peut le dire, parce qu'il se trouve que nous occupons un espace avec notre plateau qui était destiné à la ville de Saint-Pétersbourg. Et donc, les Russes ne sont pas présents cette année au MIPIM, et pour cause. Par contre, on a une personne qui est exposant, qui est ukrainien, et qui a tenu à venir sur le MIPIM, voilà.
On est parti justement à sa rencontre tout à l'heure et on l'a pas trouvé.
Voilà.
On va essayer de le trouver aussi. Parce qu'on l'a invité sur le plateau.
Voilà, on va le trouver. Il a décidé de venir. On va bien sûr en parler. Donc le conflit ukrainien, juste pour faire un petit peu l'historique avec les visées expansionnistes du président russe aujourd'hui. Ça a commencé effectivement avec la Crimée et il y a eu un litige sur une région de l'Ukraine qui a provoqué ce conflit. Personne ne sait exactement à quelle mesure on peut voir ses conséquences. Je pense que, moi, en ce qui me concerne, je vois ça de façon assez inquiétante. La deuxième chose qui est beaucoup plus dure comme réalité qui s'impose, c'est qu'on estime, je prends le Parlement européen qui a estimé, on avait déjà 500 000 réfugiés, estimé à plus d'1,5 million de réfugiés qui vont effectivement déferler comme ça sur l'Europe, l'Europe de l'Ouest et surtout l'Europe centrale. Alors justement, Isabelle, quelle est l'idée de cette initiative j'ai vu dans l'animation avec la Fondation, à Elojou Ukraine, c'est-à-dire on va s'occuper des Ukrainiens, on va faciliter la possibilité de favoriser et d'aider les réfugiés ukrainiens qui arrivent en France et qui arrivent en masse.
Alors Isabelle. Voilà, nous, si tu veux, on a pris ça dès le début du conflit, hein, on a été très réactifs. L'idée première, c'était de collecter et de se dire, en restant dans les statuts de notre fondation, qui est toujours de collaborer au logement ou d'aider les personnes à se loger, on a décidé de collecter des fonds. Alors, on n'a pas encore identifié, on fait ça en parallèle avec la Fondation de France, mais on n'a pas encore identifié les associations à qui on reversera. La seule chose que l'on sait aujourd'hui, mais ça on est en train d'y travailler, la seule chose que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on aidera les personnes, effectivement, ou les associations qui vont aider ces personnes à trouver un logement. Voilà, avec toutes les associations dont on parle autour de nous, de personnes qui, par exemple, qui répertorient les logements vacants en France, disponibles et autres. Notre idée, c'était effectivement, dans un premier temps, temps de collecter des fonds. Et puis on s'adressera à ces associations qui sont... en tout cas, pour le moment, ce que l'on collecte, c'est pour aider en France. Voilà. Donc, on verra pas.
Alors, l'idée, pour qu'on comprenne bien,
oui,
c'est que la Fondation va collecter donc de l'argent. Et cet argent, comme on le fait d'ailleurs régulièrement,
voilà,
dans la Fondation... va financer des projets de soutien. C'est bien ça, Jean-Luc ?
Oui, absolument. Je complète tes chiffres. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'au moins une centaine de milliers de réfugiés ukrainiens devraient arriver en France.
C'est déjà
les premiers sont déjà là. Souvent, les premiers sont hébergés par des familles ou des amis qui étaient déjà en France. Mais il va arriver aussi des gens
tout
qui n'ont
pas
rien.
Pas de logement, pas de famille,
et,
pas de relais.
Tous les moyens pour les héberger, pour leur donner un moment déjà de répit et puis de s'organiser en espérant qu'un jour et le plus tôt possible ils pourront revenir. Donc voilà, c'est ce que vous avez expliqué.
Repartir.
La fondation I Love You, elle existe depuis 8 ans. Elle a vocation à aider les associations qui œuvrent sur le logement, pour le mieux logement. Hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens formidables, bénévoles, compétents, extraordinaires, solidaires. Ils ont besoin aussi pour les matériaux, pour des équipements, etc. Donc, à travers toutes les opérations que tu connais, soit à l'occasion d'événements qu'on appelle Journée Solidarité Logement, par exemple au Rent la dernière fois, à Batimat l'année d'avant, on se mobilise sur un événement, mais à travers lui, c'est aussi une collecte de dons qui s'organise tout au long de l'année et qui nous permet d'allouer des financements. La dernière opération, ce sont deux pavillons d'Action Enfance pour les enfants, mais c'est aussi de l'hébergement. On a, ça c'était vraiment une vraie satisfaction pour nous, l'opération qu'on avait financée il y a trois ans à Sancoin, où l'ancienne école de la ville de Sancoin est devenue 14 logements adaptés pour personnes âgées autonomes qui restent dans leur... C'est vraiment la diversité des solutions, des territoires, des associations, des structures, il y a des toutes petites, il y en a des très grosses. Là, on a aussi donné une somme à la Fondation Abbé Pierre pour son action sur le logement.
Ce qui est très exceptionnel.
Mais aussi des petites associations, des choses plus modestes. Et puis, de temps en temps, ça avait été déjà le cas lors du fameux cyclone où on avait aidé les compagnons bâtisseurs à partir en urgence dans une opération de reconstruction
à Saint-Martin.
Et on s'était aussi mobilisé rapidement. Bah là, c'est la même logique. Il y a une urgence, il y a une réalité. Il faut de l'argent. Notre statut de fondation permet aussi d'avoir des déductions d'impôts, hein, donc sur la collecte ou les dons qui sont faits.
On peut peut-être rappeler d'ailleurs comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas modèle.
Alors, on va en parler, si vous voulez bien, mais je voudrais qu'on avance sur la question et je vais poser la question à Franck. Franck, vous m'entendez bien toujours à distance ? Alors Franck, explique-nous pourquoi. Alors, deux choses. Bon, Franck, on connaît tous Franck Tapiro dans la planète économique. C'est un grand publiciste français, impliqué dans beaucoup de causes. Depuis l'origine, on sait qu'on peut compter sur toi. Hein. Depuis l'origine, hein, Isabelle.
Ah, c'est une rencontre. C'est notre bébé, un petit peu. C'est c'est une rencontre. On s'est vus. Nous vîmes et nous nous plûmes.
Absolument.
Et voilà, c'est exactement
alors,
ça.
Nous nous vîmes ou nous nous plûmes, mais... Et il faut savoir qu'il est resté, parce qu'on en a eu des météores aussi dans l'association qui sont venus et qui sont repartis, parce que ce que disait Isabelle très souvent dans les conversations que nous avons eues, c'est qu'il y a des personnes qui viennent et qui amènent, mais que ce qui fait la force de l'engagement, c'est la durée. Et la durée, la persévérance. C'est le cas de Franck Tapiro. Alors Franck, explique-nous pourquoi tu t'es engagé dans cette cause et pourquoi la cause ukrainienne te tient particulièrement à cœur, pour nous rappeler ce que nous faisons avec la Fondation, s'il te plaît.
Thank you.
Oui, 8.
8 ans, oui.
Il n'est pas disparu.
Et à toi.
Et à toi, Franck.
Voilà, on va le voir sur d'ailleurs sur les animations, oui, absolument. Merci Franck. Stéphane Moquet.
Oui, la question évidemment tout de suite, au-delà de la collecte, hein, qui est très importante, c'est vers quelle cause vous allez pouvoir reverser une partie de ces dons ? C'est-à-dire, comment on aide ? Il y a des logements vacants.
Alors,
comment on arrive à activer tout ?
J'ai une toute petite idée, puisqu'il se trouve, comme pour reprendre les mots de Franck, coïncidence heureuse, j'ai animé la soirée des Restos du Cœur, les agents immobiliers du Cœur à Nice, la semaine dernière.
Organisé par Jacques Agide, exactement.
Organisé par Jacques Agide. Et on avait décidé de répartir les lots en deux parties, puisque le Secours populaire de région de la Provence-Alpes-Côte d'Azur avait fait un dossier pour l'Ukraine. Et c'est plus de 15 000 euros qui ont été récoltés, qui ont été développés au Secours populaire. Le Secours populaire peut être aussi une association que l'on peut soutenir.
Voilà. Donc, on travaille main dans la main avec la Fondation de France. Donc là, on va voir, la Fondation de France sont en train de faire une énorme collecte dont ils font de la pub à la télévision.
Bien sûr. Une
personne, voilà. Et on est en train de travailler, effectivement, sur le choix des associations. Mais il faut dire aussi, parce qu'on oublie, il y a plein d'associations sur le terrain, des petites associations
qui vont connues.
Voilà. Et en fait, qui, avec de peu de on n'a pas besoin de leur donner des grosses sommes, mais qui vont pouvoir agir. Et c'est là où nous, on essaye d'être assez juste, c'est-à-dire effectivement de reverser à des grosses associations, la Croix-Rouge ou autre, que tu dis, le Secours populaire, mais aussi à des petites associations qui ont vraiment besoin, parce qu'ils font des aménagements de salles dans les villages, où ils rénovent des appartements, et nous, on va essayer de capter ces associations-là, sous le couvert de la Fondation de France, parce que lorsqu'on fait des dons, on a besoin pour nos donateurs d'avoir une traçabilité absolument transparente et d'avoir voilà. Et c'est le travail qu'on va commencer dès qu'on aura un peu de visibilité. On ne sait pas. On commence cette collecte. On ne sait pas quand est-ce qu'on va l'arrêter. En l'occurrence, ce que je peux dire, c'est qu'elle a chez les professionnels de l'immobilier énormément
d'écho
et qu'on a déjà des réseaux qui nous ont fait des chèques, notamment un réseau de mandataires qui nous a tout de suite fait un chèque et qui a communiqué auprès de...
On peut
le citer.
Mais il faut le citer,
voilà, c'est
bien.
C'est IAD qui nous a...
Combien
bah, qui nous a fait un chèque de 10 000, mais là, il est en train de collecter au fur et à mesure avec ses mandataires. On a ce loger qui va nous refaire, qui va nous remettre un chèque dont je ne connais pas le montant la semaine prochaine. Et voilà, et tous les jours, on a des surprises comme ça. Et bah, on est super contents parce que l'idée, je ne sais pas combien on va récolter au final, mais en tout cas, ça sera toujours une aide précieuse pour les associations.
Ceux qui sont au MIPIM, dans le journal aujourd'hui, il y a le QR code qui apparaît. Mmh, hein, ça, c'est, il est très bien placé. Si je nous écoute là en ce moment, comment je fais pour faire un don ? On peut peut-être citer l'adresse du site dédié.
Déjà, c'est l'occasion pour nous de remercier Ronan et tout le staff
du MIPIM. Vaspar, qui est le directeur général.
Cette chaîne de solidarité en quelques jours, pour créer les conditions de notre accueil, de la visibilité, d'une page entière, effectivement, dans le catalogue du MIPIM, très pratico-pratique, puisque sur cette page qui explique, in English, of course. Ce que Isabelle vient d'expliquer, on a un QR code. Ce QR code renvoie sur une page dédiée de collecte de dons au sein du site de la Fondation de France, qui permet par ailleurs, si on le souhaite, de mettre ses coordonnées pour recevoir son reçu fiscal. Donc c'est très simple. Dans le catalogue, mais aussi sur nos réseaux sociaux, Fondation I Love You, etc., le QR code ou la page dédiée, en trois clics, on met son montant. Ça peut rester complètement anonyme. Voilà, puis bon, quand on le fait avec son cœur et on le fait avec son envie. Bon, il en reste pas moins que c'est pas anodin non plus de savoir, je crois, pour une entreprise, c'est 60% de déduction fiscale. Donc voilà, si on fait un chèque de... Allez, il y a des gens importants ici. Si on fait un chèque d'1 million d'euros, ça ne coûte que 400 000.
Non, c'est plafonné.
Ça peut être 10 euros. Parce qu'effectivement, à travers cette mobilisation des professionnels de l'immobilier et au-delà de l'habitat, c'est aussi... et surtout dans le cadre de cette opération spéciale, à travers eux, le grand public que l'on peut aussi toucher, même s'il est déjà sollicité. Nous, c'est important de dire, je m'arrête là, c'est que nous, on est vraiment positionnés sur l'hébergement, le logement. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres actions sur la nourriture, sur, que sais-je, les vêtements, etc. Nous, c'est le toit sur lequel on se mobilise.
Isabelle ?
Qu'est-ce que je devais rajouter ? Voilà, alors je voulais juste dire aussi que on a créé, un QR code qu'on va avoir aujourd'hui pour les personnes qui veulent nous faire des dons de l'étranger. Parce que finalement, on en a eu deux, là, Portugal et...
Il y a combien de pays pour représenter aujourd'hui ? 80 à peu près.
Il y a 80 pays aujourd'hui.
Voilà. Donc on a demandé à la Fondation de France de nous créer, parce que les dons qui viennent de l'étranger, c'est pas la même législation et autres. Donc ils sont en train de travailler, on devrait l'avoir aujourd'hui. Voilà, donc en fait, on fait... feu de tout bois, on est à fond, on est là pour ça, on fait une visite éclair aujourd'hui avec Jean-Luc, mais croyez-moi, on est hyper motivés, et je rajouterais même que la Fondation I Love You, à l'origine, elle s'adressait vraiment aux professionnels. Et que là, j'ai l'impression qu'avec la Fondation, avec cette opération I Love Ukraine, on a aussi touché des particuliers, puisqu'on a reçu des messages de gens qui ont fait des dons, des particuliers, et ça, c'est formidable, parce que ça incite aussi les collaborateurs immobiliers dans l'immobilier à pouvoir toucher leur propre clientèle et de faire en sorte qu'on ait une jolie collecte à la fin.
Alors voilà. Je sais qu'on avait recomposé une petite chanson, je ne sais pas si Jason l'a reçue, j'espère qu'on pourra peut-être la diffuser pendant le cours de l'émission. Hein, Jason, tu me diras quand c'est possible. Je voudrais qu'on fasse un lien, bien évidemment, avec la cause fondamentale de la Fondation, parce qu'il faut quand même donner des chiffres. Et ce n'est pas un mouvement... alors je sais que ma chère présidente n'aime pas qu'on fasse de politique et je sais que tu t'abstiens de tout discours politique et tu as raison en grande partie, mais parfois les circonstances nous poussent parfois à observer cette vie politique, bien évidemment. Alors bien évidemment, vous avez compris que je fais allusion au 27e rapport de la Fondation Abbé Pierre qui a été remis courant janvier et qui a été le seul rapport qui a fait couler autant d'encre dans les médias pendant une matinale complète, parce qu'on s'est amusé à vérifier justement tous les 5 ans à la faveur des élections quelle était la question centrale du logement dans le programme des candidats. Bien évidemment, l'immensité du vide a régné dans tous les programmes, et ça, vous le saviez déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les médias s'en sont mêlés, jusqu'à même Emmanuel Macron, le président de la République, qui a reçu Christophe Robert à l'Élysée pour parler ce rapport. Ce n'était jamais arrivé dans ces circonstances électorales-là. Je précise, hein, quand même, à toutes fins utiles. Je prends le cas, hein, 4 millions, plus de 4 millions de foyers logés de façon, on va dire, indécente ou indigne, ou en ce qu'on appelle en mal-logement, comme le disait Franck tout à l'heure, bien évidemment. 2,5 millions de personnes inscrites sur des listes de logements sociaux depuis plus de 5 ans. Des logements qui sont en état de précarité énergétique extrêmement important. Et je fais encore un lien, si tu permets, avec les problématiques de décrochage des coûts des loyers par rapport à l'énergie. Les statistiques ont démontré que pour les deux tiers des décrochages de paiement des loyers, le premier poste de décrochage, c'est l'énergie.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on commence par ne pas payer sa facture d'électricité parce qu'on a du mal à payer le plein et actuellement à 3 euros du litre ou à 2 euros du litre, ça commence à devenir compliqué. Et c'est une dégringolade sociale, c'est presque une relégation sociale. On aurait vraiment pu penser que nous aurions une société progressiste qui aurait amélioré la condition des gens. Force de constater que sur les 5 dernières années, mais on peut les mesurer même sur les 10 dernières années, cette carence, cette défaillance s'est accrue de plus de 30%, c'est-à-dire entre le pouvoir d'achat et la capacité qu'ont les personnes sur un produit intérieur brut à se loger, sur un produit de première nécessité. Moi, j'ai envie de te poser la question, Isabelle, et j'aimerais qu'on pose la question bien évidemment à toi aussi, Jean-Luc et à Franck. On est un peu au coup de la même génération, on a cru qu'on allait progresser. Comment se fait-il qu'on ait si mal progressé quand on sait, toi et moi, qu'au même moment, il y a des fortunes considérables qui se sont constituées ? Parce que c'est ça qui me choque le plus, tu vois ?
Mais oui, je sais. Et c'est pas fini parce que là...
Alors, je ne vais pas parler politique, je sais que...
Non, mais je laisserai Jean-Luc parce qu'il est plus alerte là-dessus que moi.
Ouais, tu vois.
En l'occurrence, moi, je suis très... Enfin, voilà, je suis en train de constater une chose. C'est la première fois tout à l'heure, on disait qu'on avait aidé justement la Fondation Abbé Pierre. Pourquoi ? Parce que moi, c'était à l'origine, quand j'ai commencé à créer la Fondation Aélogiou, ça s'appelait Agence Solidarité Logement, on reversait à la Fondation Abbé Pierre.
C'est vrai.
Et que finalement, là, d'avoir fait un chèque à Christophe Robert au Rhint en votre présence, c'était...
Il était très ému, je m'en rappelle.
Mais moi aussi, parce que c'est une histoire à la fois, une histoire, voilà, et il m'a dit un truc très joli, il m'a dit, t'as pas lâché, j'ai pas lâché depuis le début et tout ça. C'est vrai que j'ai du mal à faire de la politique, parce que j'ai toujours dit, on constate, on agit. Là, c'est grave ce qui est en train de se passer, parce que, d'abord, je pense en plus que le Covid n'a pas aidé, ça a ralenti les constructions pour les logements sociaux, donc je vous dis pas ce qu'il va y avoir comme répercussions dans les années qui viennent.
C'est très clair.
Et la précarité énergétique, mais c'est mon Dieu, où on va ? Parce que là, pour le coup, précarité énergétique, avec ce qui est en train de se passer en ce moment, et ben là, je peux vous dire qu'il va y avoir des personnes... ça va être dramatique, ce qui va se passer. Ça va être dramatique. Alors, la solution, je ne la connais pas. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que...
Mais quand tu vois le programme des candidats où le logement est totalement...
Non, mais quand j'en entends même, je ne fais pas de politique, encore une fois, mais il y en a qui disent aussi qu'il faut supprimer les logements sociaux. Bon, moi, ça me rend dingue. Et j'ai envie de, tu
bah ouais.
Voilà. Donc là, il y a un moment donné... J'ai juste une peur, une petite crainte, et on l'avait évoqué la dernière fois au Rhin, c'est que effectivement tout le programme pour la précarité énergétique et aujourd'hui les nouvelles mesures pour tout ce qui est énergie, c'est un coût supplémentaire pour la construction. Alors déjà, avant on n'y arrivait pas, mais maintenant, que va-t-il se passer ? Là, c'est une vraie question, je ne sais pas si je peux apporter la réponse. La seule réponse qu'on puisse avoir, c'est effectivement aujourd'hui d'alerter, là pour le coup, c'est vrai, ça a toujours été le cas, mais pour le coup, là, il faut alerter les politiques et de leur dire qu'ils se bougent. Mais peut-être aussi qu'il faut motiver aussi les maires, il faut leur donner des pouvoirs pour qu'ils puissent aménager des choses, qu'on ait aussi au niveau administratif moins de contraintes.
Si on laisse aux maires un peu de ressources et qu'on ne leur enlève pas la taxe d'habitation, qu'on l'impose le RLS par exemple pour les bailleurs sociaux, des choses comme ça, ils feront quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on stigmatise les maires, mais effectivement ils sont. J'aimerais qu'on me donne la parole à Franck. Franck, je sais que tu fais pas de politique non plus, même si tu as conseillé des hommes politiques, ça tout le monde le sait. Mais quand même, à un moment donné, on peut pas se dédouaner d'un constat qui est un constat alarmant, stupéfiant, sidérant et surtout des inégalités qui se sont creusées comme jamais. Je rappelais tout à l'heure quand même que les inégalités se sont creusées à un tel point qu'aujourd'hui, les classes sociales, notamment les classes moyennes, ont perdu plus de 30% de pouvoir d'achat dans les 10 dernières années. C'est un vrai sujet. Et le logement, qui est le premier poste de dépense des Français, est le marqueur social le plus important de décrochage. Qu'est-ce que tu en penses ? J'aimerais avoir ton avis, toi qui conseilles les puissants de ce monde. Bien sûr. Oui. C'est bon ça. Alors, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, on peut regrouper et recouper avec pas mal de choses. Je prends un autre exemple. Tu as tout à l'heure parlé de la Convention de Genève. On peut aussi penser de la Convention universelle des droits de l'homme et du citoyen. Je prends l'article 26, par exemple, sur l'éducation. Bien évidemment, on pourrait imaginer une constitution dans laquelle l'État, une démocratie, garantirait un toit décent... digne à tous ses citoyens.
Alors certains en avaient parlé.
Alors absolument.
Non, on l'a jamais vu.
Alors certains en ont parlé, et je vais même aller plus loin. On pourrait peut-être à ce moment-là sanctuariser une politique du logement. Encore une fois, le problème de sanctuariser une politique du logement, ça voudrait dire qu'on planifie une politique du logement, voilà. Ce qui ne répond pas aux intérêts privés des fonds d'investissement, des actionnaires, bien évidemment, et de ceux qui fabriquent la ville. C'est pas évident de trouver la solution.
Et puis, il y a quelque chose qui est anachronique, c'est-à-dire que l'immobilier, c'est un cycle long, là où on est sur des cycles courts en termes politiques. Voilà. Et l'immobilier, ça peut pas être une vision doctrinaire et politisée. Et c'est un vrai sujet. Donc, c'est probablement le premier gouvernement qui fait pas trop de réformes. Enfin, dire que l'immobilier, on a l'impression qu'Emmanuel Macron l'aime pas. Bon. Tout est fait contre ça, mais il n'y a pas de vision. Et il a raison, Franck. Le toit, c'est la priorité des gens.
Enfin, il avait quand même promis qu'il n'y aurait plus personne.
Bien sûr, mais ils l'ont tous promis. Il avait promis.
Sauf que juste dans sa voiture, quand on a un boulot,
c'est déjà dangereux, mais il y a ceux qui n'ont pas de boulot, ne peuvent pas trouver.
Alors, ce que tu dis là, ce que tu dis là est juste, parce que c'est ce qu'on appelait les travailleurs pauvres. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la phrase, il y a une contradiction, il y a une antinomie, il y a un syllogisme, comme dirait l'autre. Comment on peut dire que je suis travailleur pauvre, puisque le travail, précisément, vient en fait émanciper la pauvreté, c'est-à-dire vient contre. Alors, travailleur pauvre, c'est presque un antagonisme en soi. Et c'est inquiétant là-dessus. Il nous reste quelques minutes, justement, pour bien conclure. À un moment donné, bien évidemment, il faut que là où la défaillance publique, on peut le dire, la défaillance des politiques publiques crée des initiatives dans le public, parmi les citoyens, c'est notre cas, c'est votre cas, c'est le cas de tout le monde, de dire ben, là où l'État ne fait pas, ben, nous, on va faire. C'est-à-dire qu'on récolte de l'argent. On mutualise un certain nombre de moyens et on fait appel à une industrie de façon volontariste. Est-ce que ça veut dire finalement à un moment donné que le vrai secret d'une politique du logement, c'est de nous laisser finalement en paix pour agir de façon concrète? À la limite, ça serait mieux si on écoutait les professionnels qui ont déjà leurs solutions. Isabelle.
Oui, on a des solutions. Après, ce qui va manquer, c'est effectivement l'argent. C'est
toujours
nécessaire.
Mais toujours.
Toujours. Moi, je pense qu'on pourrait, au niveau du logement aussi, peut-être favoriser un peu le secteur privé. Je le dis toujours, mais je trouve qu'on ne sollicite pas avant, on sollicite pas trop le secteur privé sur les propriétaires privés, en leur donnant des avantages pour qu'ils mettent à disposition sur des loyers
bien
modérés.
Il
y a plein de solutions comme ça. Effectivement, peut-être qu'on devrait, nous, associations, être autour de la table des politiques et puis d'apporter aussi des solutions ou des suggestions. Je pense que ça va être hyper nécessaire.
Jean-Luc.
Oui, peut-être pour compléter ce que dit Isabelle, et puis peut-être moi, c'est mon combat aussi, c'est de contribuer à corriger des idées reçues, mais il faut faire de la pédagogie, mais pas de la pédagogie de bisounours. Il faut faire de la pédagogie vigoureuse, j'ose pas dire autoritaire, mais le logement social, il se trouve que je suis aussi administrateur d'un grand bailleur parisien. Aujourd'hui, quand on prend le nombre de demandeurs par rapport au nombre de logements, le délai moyen d'attente, il est vite calculé, c'est 8 ans. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Par rapport à ce que vient de dire Isabelle sur le logement privé, et qu'on appelle le logement aussi social de fait, puisque beaucoup de petits logements, etc., servent à des gens qui ne peuvent pas attendre leur place dans les HLM.
Si on prend le parc privé locatif, les deux tiers des occupants du parc privé locatif répondent aux critères du logement social.
Exact. Et puis tordre le cou, parce que je pense qu'il faut que ça rentre dans les esprits, les tours et les bars, bon sang, ça fait 50 ans qu'on n'en construit plus. Donc qu'on arrête de nous bassiner. Ça a été construit à un moment donné avec une forte mobilisation à l'époque et ça devait être des logements temporaires.
Tout à fait.
Il se trouve qu'aujourd'hui, on les prolonge et on sait quelle dérive il y a eu. Mais à l'époque, il y a eu cet effort exceptionnel. Mais excusez-moi, je vais être un peu provocateur. Mais quand j'entends ça encore aujourd'hui, alors que le logement social, c'est 7-8 logements qui sont intégrés. J'étais avant-hier avec un client dans un logement privé qu'il a acheté. Il y a une mixité, il y a 7 logements locatifs sociaux. Je peux vous garantir que personne ne peut voir la différence. Donc qu'on arrête. Par ailleurs, on va avoir des arbitrages entre la densification, la construction et puis l'écologie et... que je respecte noble, mais j'entends parfois des discours qui sont plutôt égologiques. Moi, je suis désolé. Est-ce qu'une échoppe au rez-de-chaussée à Bordeaux, dont on connaît l'étalement urbain, si on y met un étage et des combles, est-ce que ça s'appelle une tour? Et est-ce que les immeubles haussmanniens de 5 étages ou 6 plus combles, c'est un scandale parce que c'est des tours? Il faut quand même arrêter la densification, les moyens de logement dans leur diversité, parce qu'il y a des idées reçues aussi. C'est peut-être une des explications de ce que tu dis depuis longtemps. On se focalise sur les SDF, qui est un drame, mais d'ailleurs qui sont des gens qui n'ont pas uniquement besoin d'un logement, ils ont aussi besoin d'un accompagnement.
Oui.
Mais les SDF, c'est la partie immergée.
C'est très faible, c'est 500 000 personnes.
Des personnes âgées.
Les autres, ce sont
des personnes âgées qui sont dans des logements pourris, dont ils sont propriétaires, dans le fin fond de la campagne. Moi, je vais te souvenir d'une association formidable où les fenêtres, elles sont remplacées par des bâches. Ben, quand on met des fenêtres en double vitrage là-dessus, le coût de l'énergie pour eux est moins cher parce qu'ils ne chauffent pas le ciel. Quoi. Enfin, faut, mais faut de la vigueur.
Mais il faut donner des pouvoirs, tu vois, aux maires locaux. Moi, j'ai ma mère qui a essayé de faire des choses pour le mieux logement. Elle a été, ça a été très compliqué pour obtenir le permis, ça a été très compliqué pour avoir des subventions. Et ces logements sociaux, ils ne se sont pas faits. Voilà.
Mais la précarité énergétique est un sujet d'autant plus prégnant que la loi du 21 août 2021... avec son décret d'application de la loi climat résilience, va retirer du marché 30% de l'offre locative.
Non,
c'est un marché estimé à 100 milliards d'euros, ne serait-ce qu'en termes de rénovation énergétique. Je prends deux exemples. Il y a 7 lettres énergétiques. Deux vont être retirées du marché à partir de 2023 pour le gel des loyers, pour les étiquettes F et G, jusqu'à 2034 pour arriver aux étiquettes E. E. Ça veut dire que quand on prend le pourcentage de lettres E, F et G, on a plus de 30% du marché locatif. Soit environ 5 millions de logements qui vont être,
ça,
qui vont être impropres
un,
à la location.
Un vrai sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gouvernements, souvent, créent des lois de défiscalisation pour des investisseurs dans le marché du neuf, dont le temps de construction et le nombre de logements mis sur le marché sont très faibles. Si on veut aujourd'hui faire baisser cette pression et cette difficulté de logement, il faut activer dans le marché dans l'ancien. C'est-à-dire qu'il faut aussi aider des petits investisseurs.
Mais carrément.
Parce que c'est là où il y a du parc. Et deuxième sujet, on parlait du pouvoir. Parce que le pouvoir d'achat, c'est le sujet majeur de la campagne. C'est ce qui intéresse les Français. Dans le pouvoir d'achat, il y a l'immobilier. Demain, ça va être un vrai sujet. On parlait de la facture énergétique. Franck Tapiro parlait tout à l'heure, évidemment, du coût des différents abonnements.
C'est le premier poste
et
de dépense. C'est
ça
le
va
premier poste
problème.
De dépense de Français. Et donc, je vais devoir conclure parce qu'il faut qu'on rentre l'antenne.
Voilà, on était passionnés.
Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous, on soutient, bien évidemment, et je fais partie du bureau de la Fondation. Et tu le sais, Isabelle, j'ai souvent plaidé pour qu'on fasse plus de politique. Je pense qu'à un moment donné, on n'aura peut-être pas le choix de se saisir du dialogue politique pour proposer concrètement des solutions, parce que les solutions, on les a. La preuve, ce qui avait été fait à l'époque avec Marty pour son formidable projet de promotion que je trouve absolument génial.
Absolument fantastique.
Le projet de Marty, c'était quoi? C'est le projet de dire, voilà, il y en a plein des bâtiments dans des petites bourgades très jolies qui sont en totale déshérence. Laissez-nous, cédez-nous le foncier à l'euro symbolique. Via un OFS, d'ailleurs les OFS ont été créés pour ça, hein, et tu connais les OFS, il y a des OFS, il y a des véhicules juridiques qui ont été créés, cédez-nous le foncier, mais à la limite cédez-les même aux fondations. Ils seront capables de trouver des copromoteurs, de faire de la copromotion, et on a même chez Nexity une société filiale qui s'appelle Nexity Non-Profit, je ne sais pas si vous connaissez,
non.
C'est Jean-Luc Poitvin, Nexity Non-Profit, c'est la partie finalement de Nexity qui fait des opérations au franc le franc, à l'euro près.
Bravo.
Sans dégager la moindre marge. Et quand il y a marge dégagée sur Nexity Point Profit, elle est reversée aux associations et aux fondations. Je trouve ça génial, à condition qu'on laisse les professionnels le faire. Je vais devoir rendre l'antenne, mais si vous permettez, j'aimerais toutes et tous qui nous écoutez faire comme on l'a fait depuis ce matin, faire un hommage à quelqu'un qui est disparu trop tôt, qui est décédé brutalement. Vendredi dernier, il s'agit de Laurent Vimont, le président de Century 21. Nous pensons bien sûr à ses proches, sa famille, ses collaborateurs. Il laissera un grand vide. Je sais que tu le connaissais bien, Isabelle. J'aimerais qu'on dédie aussi cette table ronde qui soutient les réfugiés ukrainiens avec la Fondation Elogiu à Eloge Ukraine, aussi avec le soutien des patrons de réseau. Et je sais que Laurent Vimont a été toujours l'un des partenaires
l'un des soutiens.
Mais à chaque fois que je l'ai appelé ou que il a toujours répondu à MSF, c'était un homme qui était très pris. C'était un pilier en fait du panorama de l'immobilier. Mais écoute, il a toujours répondu à mes appels. Il a toujours participé à la fondation Aïlujouk. Et c'est quelqu'un qui avait un grand cœur hein, parce qu'il a organisé plein de choses au sein de Century 21. Tout est dit. On est très triste. C'est stupéfiant parce que c'est trop brutal. On le garde dans notre cœur et on sait que c'était un homme top. Voilà.
Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi, Franck. Désolé, tu n'as pas pu être présent avec nous à Cannes, mais tu y es bien sûr par la pensée. Oui, on t'écoute. C'est considérable.
Tout à fait.
C'est considérable. D'ailleurs, les amis, à Paris, dès qu'on sera à Paris, Franck, tu viendras dans nos studios que tu connais bien avec Isabelle et Jean-Luc. On va continuer. Je pense qu'il va falloir qu'on garde la parole très régulièrement pendant cette période de conflit, si vous êtes d'accord. On vous ouvrira l'antenne une fois par semaine, justement, pour faire un point et travailler au niveau du numérique, car là, grâce au numérique, on va pouvoir atteindre des personnes qui ne pouvaient pas le faire à une époque pour pouvoir justement récolter des dons et faire face à cette crise sans précédent. Et croyez-moi, On n'est pas sorti de l'auberge, merci. Comme dirait l'autre. Merci, et je pense qu'on a besoin de tout le monde. Merci, voilà. Franck Tapiro, à distance,
merci.
Depuis Paris.
Merci, Radio Immo. Merci, Sylvain. Merci, Olivier.
Merci à toi, Isabelle. Isabelle Larochette, la fondatrice de la Fondation Aïlojou, présidente emblématique. Soutenez cette fondation. Donnez de l'argent. Vous avez eu tous les avantages fiscaux qui vont avec. Tout est indiqué sur le site. Le site est en activité.
Alors, je veux aller plus sur la page Facebook où vous avez juste le logo. Vous cliquez clac.
Page Facebook.
Facebook, voilà. I love you.
Voilà. Et pour c'est le MIPIM, dans la catalogue du MIPIM, voilà. Il y a le QR code.
On va prendre la page du MIPIM que je vais indiquer voilà, à la caméra très rapidement. Donc, vous avez vu, quand vous prenez le journal du MIPIM, pour tous ceux qui nous écoutaient, et d'ailleurs, c'est aussi en anglais, vous avez la possibilité de scanner le QR code. On va retrouver l'article. Voilà, on l'avait il y a 3 ans, mais ça fonctionne toujours comme ça. Hein. Voilà, c'est ici. Jason, tu me dis à la caméra. Voilà. Le QR code, comme ça. Voilà, le QR code, on le voit, il est au centre. Vous le scannez, très simplement, avec votre iPhone. Et vous avez la possibilité. Mais vous donnez ce que vous voulez, hein. Vous donnez 10 euros, 15 euros.
Voilà, et moi je voulais remercier, voilà. Encore une fois, je le fais parce que c'est juste exceptionnel de nous avoir accordé cette place. Je voulais remercier le MIPIM et puis Ronan, je ne connais pas encore, je cours après depuis ce matin.
Mais voilà, Ronan Vaspar qui est venu ce matin et qui disait j'y tiens absolument, et avec une très très belle visibilité qu'il a fait justement. Et bien évidemment, nous on est juste une chambre d'écho. Portez la voix de la Fondation pour vous toutes et tous. Voilà, on pense bien à vous, bien
merci.
Fort. N'oubliez pas que les réfugiés de demain, eh bien, c'est nous. Parce que ça peut nous arriver du jour au lendemain. Et croire qu'un régime ne peut ne pas changer, Vladimir Poutine a fait la preuve qu'un régime peut changer, puisque ce monsieur a en tête la restauration d'un grand empire russe. Ne l'oubliez pas, parce que c'est quelque chose qui va certainement rabattre les cartes géopolitiques en Europe. Et on est juste à 2h30 hein, de l'Ukraine, juste pour vous donner un indicateur. Donc aimer son prochain, c'est bien. Aimer son lointain aussi. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est tous concernés. Merci à toutes et à tous.
Merci beaucoup.
Et on
merci.
Se retrouve pour la suite de nos
merci.
Programmes.
Le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier. Du 15 au 18 mars 2022, au Palais des Festivals à Cannes. En partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonize. Sur Radio Immo.